C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Il y en a un comme ça par génération.
Populaire.
Tendance.
Époustouflant, brillant, génial.
Bonjour, bonsoir, nous voici installés dans les studios de Erdua pour vous accompagner ce soir encore avec l'émission d'Artichaut. Ma carotte, tu ne pourrais pas ramener un petit shampoing devant ma petite table de mixage, la caisse Dada Shampoo.
Ouais, le shampoing Dada, qui selon les lots fait pousser les sourcils, la barbe ou encore la moustache. Donc c'est un shampoing qui va se répandre comme une traînée de poudre à travers l'Europe entière. Et pourquoi je t'ai offert ça? À ton avis, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de...
Dada.
On va parler de dada, 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 dada. Alors qu'est-ce que c'est dada?
Bah dis-moi, parce que j'avoue que j'ai l'impression que ça me parle. Enfin moi quand tu me dis dada, ça me fait penser au dadaïsme, mais je sais pas du tout si c'est un lien avec ou pas.
Oui, non, mais non, ça n'en a aucun. Mais si, bien sûr, évidemment, Malo, que c'est lié. Mais dada, c'est avant tout une genèse d'une révolution artistique et poétique majeure, qui va être comme l'antidote, la réponse au désastre et au malheur de la guerre de 14. Alors pour reconstituer un petit peu tout ça, on peut dire que vers 1900, la colline et Montparnasse, enfin la colline de Montmartre et Montparnasse, donc étaient très vivants en artistes dont on a déjà parlé ou dont on va parler. Donc il y avait le bateau Lavoir qui abritait des peintres, des sculpteurs, des littérateurs, des humoristes, des acteurs avec des blanchisseuses et des couturières et des marchandes de quatre saisons et de quatre sous. Donc c'est là qu'habitait Van Dongen qui était pieds nus dans ses sandales à partir de 1904. C'est là qu'a habité Pablo Picasso avec sa première compagne Fernande. Il y avait des poètes et donc des artistes et donc des gens de toute l'Europe qui se retrouvaient là. Et tous ces gens mis ensemble avaient commencé à faire une petite sauce artistique de par leur amitié et chacun sa vision un peu des choses. Et malheureusement, la guerre de 14 est venue mettre à bas tout ça, obligeant aussi les artistes à retourner dans leur pays d'origine pour aller faire la guerre contre leurs copains français.
Tu connais beaucoup d'artistes qui engagés en guerre.
Alors justement, pour transformer des tragédies collectives en poésie universelle, je vais vous lire ce que dit Guillaume Apollinaire. « Tous les souvenirs de naguère, ô mes amis partis en guerre, où sont-ils, Braque et Max Jacob, de Rhin aux yeux gris comme l'aube, où sont Rénal Billy Dalise, dont les noms se mélancolisent comme des pas dans une église, où est Krémniste qui s'engagea, peut-être sont-ils morts déjà. Le ciel est étoilé des obus des boches, la forêt merveilleuse où je vis donne un bal, la mitrailleuse joue un air à triple croche. » Bon voilà, ça c'est Guillaume Apollinaire, donc lui il s'en est sorti. Et du coup, bon, ces gens qui étaient ultra sensibles, et d'ailleurs, tu vois, ça me fait une montée parce que faut lire vraiment la poésie d'Apollinaire parce qu'elle évoque des images, elle est très cinématographique et très moderne. Et donc, bon, c'est beau, c'est triste. Et du coup, bon, ben voilà, il a fallu trouver une force et un antidote pour pas que le malheur et que le karma soit pourri à tout jamais. Et donc, Dada est arrivé. De ce malheur et Dada il a tout voulu foutre en l'air. Dada c'est le nihilisme. Dada c'est voilà foutre en l'air tout ce à quoi on a cru jusqu'alors. Foutre en l'air les académies, foutre en l'air les écoles, foutre en l'air le fond, la forme, foutre en l'air les symboles.
C'était le révolutionnaire de l'époque un peu quoi.
Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement... En plus tu vois, on est passé d'un siècle vraiment presque du 19e siècle encore à l'ère de la mitrailleuse automatique. Et donc du coup, le modernisme, ça a été une claque qui s'est faite par rapport à la guerre et par rapport à l'armement. De la guerre qui a haché menu des jeunes gens et qui n'étaient pas des artistes, parce que toute la paysannerie française, elle y est passée à être haché menu. Et donc du coup, ces gens-là qui essayaient justement de former une Europe unie par les arts, elle s'est trouvée non seulement massacrée, mais en plus complètement déboussolée. la vision d'un futur qui partageait et qui était souvent issu d'idées socialistes de celles de la Commune de Paris, de leurs parents, ben, se sont retrouvés dans un down, enfin traumatisés quoi. On peut dire le mot, traumatisés. Donc du coup, Dada arrive pour les sauver. Et Dada, pour les sauver, ben, il faut faire place nette. Donc comme déjà, ben, la guerre, elle a déjà bien fait place nette. Hein. Donc voilà, on va se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Et en plus, comme on arrive dans une ère plus moderne, où les sciences, dont la psychiatrie, la psychologie, vont être issues. Et puis aussi ben, les recherches, comme on a vu, sur les couleurs qu'a utilisé Delaunay, par exemple, mais pas que. Donc, c'est des artistes qui vont aussi avoir une vision du monde nourrie des sciences de leur temps et qui vont essayer de les utiliser et de les mettre en pratique. Donc, du coup, on va retrouver des profils de bourgeois. Donc, après, dans l'émission qui suivra, on va parler de Max Ernst, mais il n'est pas tout seul. Parce que, du coup, il y a eu pas mal dans ces enfants bourgeois d'artistes qui sont d'abord devenus des médecins. Et donc, le côté sauver les gens et soigner de la guerre de 14 et l'expression psychologique, artistique, comme de l'art-thérapie ou une façon de s'auto-sauver, tout ça arrive à peu près à la même époque. Donc, pour en revenir à Apollinaire, qui je considère par déjà le fait qu'il était vivant et sa poésie foudroyante et qui étreint le cœur, je pense que Apollinaire est le papa de Dada, parce que Dada est une révolution qui va mettre en avant la poésie. Et la poésie du cœur, pas une poésie qui répond encore, elle, à des normes et des vers et des strophes et des alexandrins ou autres.
Je pense à toi, mon loup, ton cœur est ma caserne. Je pense à toi, mon loup, ton cœur est ma caserne. Mes sens sont tes chevaux, ton souvenir est ma luzerne. Le ciel est plein ce soir de sabres, d'éperons, les canonniers s'en vont dans l'ombre lourd et prompt. Mais près de moi, je vois sans cesse ton image. Ta bouche est la blessure ardente du courage. Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Quand je suis à cheval, tu trottes près de moi. Nos 75 sont gracieux comme ton corps et tes cheveux sont fauves comme le feu d'un obus qui éclate au nord. Je t'aime des mains et mes souvenirs font sonner à toute heure une heureuse fanfare. Des soleils tour à tour se prennent à hennir. Nous sommes les bas-flancs sur qui ruent les étoiles. 17 décembre 1914. Au lac de tes yeux très profonds, mon cœur s'envole et fond. Là se défond dans l'eau d'amour et de folie, souvenirs et mélancolie.
Donc, appelé au front, Apollinaire, il n'y est pas resté longtemps. Il y a été gravement blessé. Et vers 1916, il va rentrer à Paris. Il y a plein d'anciens amis et des poètes artistes qui vont eux aussi le rejoindre. Et le bandeau noir que Apollinaire porte à la tête après sa blessure est accepté comme vraiment un symbole d'héroïsme. Mais la plupart de cette jeunesse dite abandonnée rejetait toute forme de nationalisme ou de patriotisme excessif par rapport à la France, quoi. Ils en étaient bien tous dégoûtés. Donc des artistes comme Anatole France, Jean Richepin, Edmond Rostand, Madame de Noailles rendirent gloire à l'héroïsme des soldats morts pour la patrie. Donc il y avait aussi une alimentation de la haine du Kaiser et il y avait un côté, enfin voilà, d'un côté on les appelait à la bataille et d'un côté il voulait pas y aller. Et donc c'est un peu devant ce ces revers, enfin ces contradictions de ce que tu as envie de faire et ce qu'on t'oblige à faire, que l'expression poétique, celle d'André Breton, celle d'Apollinaire, ont été vraiment sollicitées, quoi. Donc, en 1916, il y a le premier numéro d'une revue qui s'appelle SIC, qui a permis aux poètes et aux artistes dits modernes de pouvoir s'exprimer. Elle a existé pendant 3 ans. Et en 1917, Paul Réverdy en a lancé une autre qui s'appelait Nord-Sud, qui était un peu la concurrente et qui voulait mettre un petit peu en avant la littérature dite moderniste et aussi l'art figuratif. Mais du coup, le côté figuratif, ça leur a pas plu. Et donc, ils ont préféré faire bloc avec Guillaume Apollinaire. Et c'est là qu'a commencé à avoir des noms qui sont arrivés, tels que surréalisme. Parce que bien sûr, on cherche des noms, on cherche à nommer cette nouvelle expression. Donc, du coup, il y a Philippe Soupeau, par exemple, qui est passé dans les premières revues et qui doit donc sa célébrité à cette revue. Mais il y a aussi Louis Aragon, dont les textes étaient cités, ou le peintre Picabia, dont les illustrations étaient à l'intérieur de ce journal. Et donc... Ce cercle littéraire de ces artistes et poètes a commencé à vraiment bouger et être dynamisé par l'arrivée à Paris de Tristan Tzara vers 1917. Et du coup, Tristan Tzara avec Max Jacob ont commencé à faire un premier article dans cette revue SIC qui s'est intitulé « La naissance de Dada ». Et il écrit « Le poète Tristan Tzara et le peintre Janko publient à Zurich une revue artistique stricte et au contenu intéressant. Le deuxième numéro de Dada sortira bientôt. » Le mouvement Dada, c'est aussi un peu le berceau du surréalisme. Mais donc tout ça, ça se fait par strat et il faut du temps pour la composition, l'élaboration et la création d'un vrai mouvement. Et là où ils ont été très forts, ces gars-là, c'est que le mouvement, il était vraiment européen. C'est-à-dire que, comme tous ces gars-là, c'était rendez-vous avec la guerre, le fait que leur pays était en guerre, ils n'en avaient vraiment rien à faire. Et donc, toutes les amitiés qui avaient été faites avant-guerre, elles ont perduré encore plus solides après-guerre. Et c'est pour ça que le mouvement Dada, on le retrouve à Berlin, à Zurich et ensuite à Paris. Et simultanément, il va s'exprimer dans des formes différentes, mais il va y avoir comme une synchronicité aussi de ce moment, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient connus, qui s'étaient perdus de vue, vont faire naître en même temps un mouvement simultané et le même, quoi. Donc, c'est ça aussi, c'est merveilleux.
J'ai bien envie de savoir ce que tu en penses.
Oh, mais j'adore la
fête. Mais j'adore la fête.
Donc, une petite musique. Ok, donc...
Allez, Carotte.
J'ai choisi Bernard Lavillier, qui a une petite chanson Dada qui va aller très bien dans notre propos. À tout à l'heure.
La chanson d'un dadaïste qui avait Dada au cœur, fatiguait trop son moteur, qui avait Dada au cœur. L'ascenseur portait un roi, lourd, fragile, autonome. Il coupa son grand bras droit, l'envoya au pape à Rome. C'est pourquoi l'ascenseur n'avait plus Dada au cœur. Buvez du chocolat, lavez votre cerveau, Dada, 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 buvez de l'eau. La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste aimait une bicycliste qui n'était ni gay ni triste. Mais l'époux le jour de l'an savait tout et dans une crise envoya au Vatican leurs 2 corps en 3 valises. Ni amant, ni cycliste n'était plus ni gay ni triste. Mangez de bon sirop, lavez votre soda, Dada, 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 buvez de l'eau. La chanson d'un dadaïste qui était Dada de cœur, qui était donc dadaïste comme tous les dadas de cœur. Un serpent portait des gants, il ferma vite la soupape, mit des gants en peau de serpent et va t'embrasser le pape. C'est curieux, ventre en fleurs, n'avait plus Dada au cœur. Buvez du lait d'oiseau, lavez vos chocolats, Dada, 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 mangez du veau.
Oui, bravo, merci.
chanson dada.
Chanson dada pour les dadaïstes. Alors du coup, on considère que Dada, c'est le berceau dans lequel le surréalisme, on peut dire, prononça ses premiers mots, fit ses premiers pas, grandit et mûrit. Donc c'est le point de départ. Alors on considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dada est né à Zurich, même si du coup ses adeptes vont même apparaître un peu partout en Europe et aussi en Amérique, où il va aussi y avoir un petit courant, enfin d'ailleurs un grand courant. Donc par rapport à cette époque, la Suisse est le seul pays officiellement neutre d'Europe, donc c'est le seul îlot de paix dans un monde qui a été ravagé par la violence de la guerre. Et donc c'est là que les jeunes gens qui veulent échapper au conflit se retrouvent. Donc on retrouve les Allemands comme Richard Huelsenbeck et Hugo Ball, les Roumains, comme Tristan Tzara et Marcel Janco, l'Alsacien Jean Harpe, dont je ferai un petit artichaut juste pour lui, et auxquels viennent s'attacher, se greffer tout un tas d'autres intellectuels qui veulent eux aussi s'exprimer. Donc ce qui les unit par-dessus tout, c'est leur haine pour une guerre qu'ils ont jugée absurde et sanglante. Et bien qu'ils soient pacifistes, ils évitent de prendre part à des manifestations. Donc ils protestent à leur manière, dans le domaine qui est le leur, la littérature, le théâtre vivant, l'art figuratif encore un petit peu, la poésie. Ils viennent à peu près tous de familles aisées, bourgeoises, et sont d'abord adeptes de ce qu'on va appeler l'art de l'anti-art.
Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative... Le délire de l'artiste, n'est-ce pas ?
Donc, le nom Dada, paraît-il, fut inventé le 8 février 1916 par Tristan Tzara. Et selon la légende, c'est ton anniversaire.
Ouais, exactement, voilà. C'est magnifique.
T'es trop Dada, toi, Malo. Ça, maintenant, c'est bon.
C'est ça, je viens de comprendre. Ah là là, comme je suis fière qu'un mouvement aussi incroyable soit né le jour de mon anniversaire. Putain,
ah oui, parce que bien. Franchement, ça c'est la première révolution vraiment qui met tout à bas dans le monde de l'art, quoi. Et pour en revenir à cette petite anecdote, donc il semblerait que Tristan tomba accidentellement sur la page d'un dictionnaire, et donc il constata que son coupe-papier indiquait une petite ligne où c'était marqué « Dada ne signifie rien ». On apprend dans les journaux que les Crous appellent la queue d'une vache sainte Dada, que le cube et la mer s'appellent Dada dans une certaine contrée d'Italie. C'est aussi un cheval en bois, la nourrice. C'est la double affirmation en russe et en roumain, Dada. Donc, mais comme Tristan Tzara, en même temps, déclare qu'il est contre tout manifeste, voilà, Dada aussi a un besoin d'indépendance. Dada se méfie de la communauté et des grandes idées de masse. Ceux qui appartiennent au mouvement veulent vraiment garder leur liberté. Ils ne veulent reconnaître ni s'asseoir sur aucune théorie. Et il dit « Nous en avons assez des académies cubistes et futuristes, laboratoires d'idées bien trop formelles. Fait-on de l'art pour gagner de l'argent et caresser les gentils bourgeois ?» Donc là, cette idée de caresser les gentils bourgeois, on l'a déjà vu avec les impressionnistes. Mais d'un autre côté, bon, c'est délicat parce que c'est les bourgeois qui achètent de la peinture. Alors bon, c'est aussi une façon d'exprimer l'art pour l'art. Et ça, c'est aussi au-delà d'en faire un métier, c'est-à-dire gagner sa vie avec. C'est une expression libre. Alors, comme ces gens, j'imagine, devaient bien vivre et avaient sûrement des rentes, ils pouvaient se consacrer tout entier à cet art-là. Et merci. Et donc, du coup, l'effort collectif qu'ils ont fait, c'était un effort vraiment pour tout détruire, sans des exceptions, pour détruire l'art ancien, car il n'était pas libre. Ils considéraient que c'était la bourgeoisie qui l'avait formé, et en fait, ils voulaient mépriser allègrement la bourgeoisie, c'est-à-dire ils mordaient quand même un peu la main qui les nourrissait et qui les avait élevés. Mais bon, c'était le truc. C'était pour punir aussi leurs parents de la guerre, quoi. Et Dada fut la négation de tout. Toute hiérarchie et équation sociale installée pour les valeurs par vos valets, donc Dada, abolition de la mémoire, Dada, abolition de l'archéologie, Dada, abolition des prophètes, Dada, abolition du futur, Dada. C'est les punks de notre nouvelle ère, quoi. Donc leur conception de la liberté alla jusqu'à les conduire à l'affranchissement de la logique. Donc ils considèrent que la logique est une complication, que la logique est toujours fausse, qu'elle tire des fils, des notions, des paroles dans des extérieurs formels vers des bouts et des centres illusoires. Ces chaînes tuent des myriapodes énormes asphyxiant l'indépendance. Alors, à Paris, il se passait toujours quelque chose au cabaret Voltaire. On lisait les vers de Kandinsky. Donc, c'est vrai qu'on a parlé la dernière fois de Kandinsky comme peintre, mais on n'a pas parlé de Kandinsky comme poète, bien qu'on ait dit que sa peinture était à la fois visuelle et sonore et qu'il était justement aussi des chefs de file. Il
était on avait évoqué là-dedans. Qu'il était pluri-artiste quand même, enfin, qu'il faisait beaucoup de choses. Ou alors, c'est pas, on l'avait lu dans les notes, mais il me semble que ça avait quand même été.
C'est des gars qui veulent toucher à tout. Et justement, comme aux sciences intéorisantes, en tout cas, ils veulent bien aussi confronter. Et c'est surtout aussi la poésie, le mot. Donc Kandinsky, Blaise Cendrars, on joue aussi du Liszt. On y tient des soirées françaises, russes, voire même allemandes. On y lit les vers de Max Jacob, d'André Salmon, de Jules Laforgue. Harpe, il lit bien sûr les extraits de Hubert Roy, d'Alfred Jarry, dont la chanson de Gérard de Villiers parle, là, le roi au bras coupé. On y chante des chansons d'avant-guerre comme celle d'Aristide Bruand. Et finalement, les dadaïstes peuvent commencer à proposer leur propre création et à la présenter et affirmer la position nihiliste totale de Dada par rapport à tout art ancien ou même tout art assez proche. Quoi. Tout est complètement démantelé et on peut dire que c'est cette révolution collective qui va les sauver et qui va les rendre célèbres. Donc c'est Soupeau qui va surtout être lui le chef de file du mouvement Dada aux États-Unis. Je voulais vous lire encore là en 1920 un petit extrait, donc un manifeste non manifestable qui comprenne les instructions pour faire un poème dadaïste. Alors bon, vous allez voir toute l'ironie qu'il y a là-dedans, parce qu'en fait, Zara, il n'a jamais composé ses poèmes comme ça. Mais bon, Malo, si tu veux faire de la poésie surréaliste, voilà ce qu'il te faut faire. Prenez un journal, prenez des ciseaux. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez-le doucement. Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre. Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Le poème vous ressemblera. Et ça y est, vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. Donc, voilà.
Ça donne presque envie d'essayer juste pour voir ce que ça donne.
Moi, il faut essayer. Parce que ces gars-là, comment ils vont faire naître leur surréalisme visuellement, c'est qu'ils vont commencer à utiliser des collages. Et ils vont utiliser des collages dans toutes sortes de papiers qu'ils vont trouver, que ce soit des morceaux de photographie, des morceaux d'affiches, des morceaux de lettres, des morceaux de livres, des morceaux de journaux, des morceaux de papier, des morceaux de tissu d'ameublement, des morceaux. Et du coup, c'est par ces collages fous, invraisemblables et riches, puisque là, c'est de l'ultra figuratif qui a été découpé et mélangé. On va obtenir des visions de rêve. Donc là, on entre dans vraiment des phases oniriques de l'homme. C'est de la psychologie, c'est de la psychiatrie. C'est de la psychiatrie physique, visuelle. C'est de l'art psychiatrique, pictural et poétique. Et c'est fait presque sans y penser. Comme on parlait d'écriture automatique, il y a aussi là-dedans une envie de faire appel à l'inconscient, au subconscient, lâcher prise et aller voir ce qui se cache justement derrière l'éducation, l'instruction, les préjugés, comment on a été formé, éduqué, élevé. Et ça, il faut la battre pour aller voir derrière ce qui s'y cache. Et du coup, c'est un art qui appartient à chacun, donc qui est très personnel. Et pourtant, comme les tâches de Rorschach, pour une part, parlent à tout le monde, évoquent à chacun quelque chose aussi qui lui est propre. Il y a une énorme résonance dans cette forme d'art à ce que chacun peut ressentir personnellement et émotionnellement. Donc c'est pour ça que c'est un art qui est très riche. Et en plus, c'est un art qui se nourrit de la musique et de la poésie des mots. Donc comme ils vont pouvoir couper tout, donner vraiment libre cours à leur énergie créatrice, comme on ferait aujourd'hui dans une maternelle où on mettrait à disposition des tout-petits tout un tas de matos en les laissant faire pendant des heures. Et là, y a vraiment une sublimation. Et en plus, une guérison, parce que ce travail va les élever et va nous élever aussi. C'est-à-dire que non seulement ça les sauve, mais je pense que ça sauve aussi la civilisation qui arrive derrière, parce qu'on a besoin de l'art pour se sentir bien, s'élever justement psychologiquement. Et ce besoin intrinsèque qu'eux ressentaient face au traumatisme de la guerre, je pense qu'ils ont partagé leur antidote avec toute la population, et c'est pour ça que la sauce elle a prise.
Mais c'est pas un mouvement qui s'est perpétué, par contre, dans le temps, quoi. Ça a duré sur une dizaine d'années.
Ça a été, oui, vraiment comme faire un brûlot, mettre tout à bas et reconstruire. Et après, dans la reconstruction, diverses branches sont nées. Donc après, André Breton va prendre à sa charge le mouvement des surréalistes, qui va finalement finir par se séparer aussi. Bon, voilà, après, comme des musiciens, on fait d'abord en groupe, et puis après, chacun veut tenter sa chance en solo ou sort du groupe pour des raisons personnelles. Chez les surréalistes, par exemple, à Paris, André Breton, qui était le chef de file, avait une personnalité tout à fait arrogante et un peu suffisante. Et du coup, je pense qu'il en a saoulé plus d'un, et que des gens se sont coupés du groupe parce qu'ils en avaient marre que Breton ramène tout le temps la couverture à lui, parce qu'il était grandiloquent et un peu trop narcissique.
C'était pendant l'épisode où on parlait de Frida Kahlo, justement, oui. Où elle les dégomme un par un, comme quoi elle a été abattue par la mentalité de ces artistes français. Je me rappelle de ce moment-là, c'était... Enfin, parce que pour nous, en tant que Français, je trouve que c'est des grands noms d'auteurs artistes de notre pays, et que c'était assez affligeant de voir le décalage d'une personne d'une autre culture qui se rend compte qu'en fait il devait être justement assez particulier.
Oui, et puis aussi un peu misogyne, et puis justement c'est les premiers à vouloir se libérer du labyrinthe, mais c'est les premiers à reconstituer un labyrinthe et un manifeste, tu vois. Tristan Tzara, il dit ah bah allez, manifeste, et derrière en fait le surréalisme va sortir aussi son manifeste du surréalisme. Donc on voit bien aussi, comment dire, une forme d'aberration de mouvements un peu trop, olé olé, parce que voilà, c'est des temps forts. Après, le mouvement, en fait, voilà, on donne une énergie, on balance. Après, ce que le monde des arts et les gens vont en faire, qu'ils le saisissent ou qu'ils le saisissent pas, ça appartient à chacun. Un mouvement, il n'est pas nécessairement fait pour durer. Quand il dure, c'est merveilleux. Mais finalement, on peut dire que il est vraiment utile quand il dure pas, et que il se revitalise en étant réapproprié par d'autres. Et c'était un peu ça que je pense que Tristan Tzara voulait faire. Mais après, une personnalité comme André Breton, et hop, ça y est, on refait une secte autour d'un formatage et d'une façon de faire, et on ne veut plus voir que cette façon de faire, et on méprise ceux qui font différemment. Non, c'est pas du tout ça l'idée. Faut pas... Après, moi, tu sais très bien, Malo, que j'utilise les noms officiels qui sont donnés, donc tous les mots en « isme », et qui ont été mis par des gens, des critiques d'art, ou dans des cases, qui ont rangé les artistes dans des cases, mais pratiquement aucun artiste n'a envie d'être rangé dans des cases.
Quand tu personne, les interroges, au final.
Ils n'aiment pas qu'on les range dans des cases. Ils ne veulent pas être rangés dans des cases.
Mais aucun humain ne devrait être mis dans une case, où je vois les étiquettes qu'on a aussi sur nous, travailleur, pas travailleur... féminine, masculine, enfin c'est que des étiquettes où au final on est un ensemble de choses, un ensemble d'envies et de capacités, et je trouve ça super dur de devoir donner un nom ou définir chaque chose, et que chaque chose doive avoir une définition.
Sûr, on n'est pas des objets. Du coup, voilà, mais après on voit bien justement comment le monde a tendance à vite formater des choses qui se voulaient justement informelles et libres. Bon, c'est un peu peut-être la nature humaine qui est faite comme ça, mais heureusement justement que régulièrement les artistes foutent en l'air. Donc là, je pense qu'on est pareil en train de foutre en l'air l'art contemporain. Donc je pense que là, il y a un genre de Dada 2 qui est en train de se mettre en place sur l'absurdité de l'art contemporain là, qui nous est Dada servi et qui est lui aussi nationalisé, subventionné, suraidé depuis là bientôt 30 ans. Et voilà, et je pense que les artistes d'aujourd'hui ont pareil envie de sortir de ça. Et l'idée de péter le labyrinthe et de ne pas faire partie d'un mouvement en isme, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un groupe de copains qui regardent ensemble dans la même direction et qui ont un peu la même vision libertaire et libérale du monde, quoi. Donc, du coup, c'est très intéressant. Alors là, j'ai amené mon magnifique livre de peinture qui s'appelle « Le surréalisme, la genèse d'une révolution » de Natalia Brodskaya avec des très belles illustrations. Là, je suis sur le tarot. Et donc, on pourrait d'ailleurs profiter de ça pour parler aussi un peu de Marcel Duchamp qui est aussi un peu à la transition de tout ça en restant dans une peinture finalement très classique. Parce que la texture, sa facture, elle est magnifique, elle est digne de l'art ancien. Et qui, par ses thèmes complètement oniriques ou fous, commence à mettre vraiment une forme de futurisme. Donc dans cette œuvre-là, par exemple, avec les oiseaux qui sortent des bougeoirs, ce crâne et cette espèce de voie lactée de naissance d'étoiles au bout d'un échiquier qui fait penser à Kandinsky. Donc ça s'appelle Le jeu énigmatique, c'est de 1945 et c'est Charles Rhin qui a produit ça. Donc celle qu'on voit là c'est aussi Charles Rhin. Donc là j'étais en train de parler de Duchamp, mais les illustrations c'est ce monsieur que je ne connais pas. Ici donc un Peter Bloom, donc ça c'est fait aussi avec des collages et de la peinture et des trucs remis. Je montre un petit peu à Malo et vous aussi sur vos ordinateurs, vous pouvez aller voir un peu. Donc bon, bah là, on va retrouver un peu du Dali. Donc on peut dire que bon, Dali, mais pas que. Donc là, c'est Leonora Carrington. Donc ça, c'est des femmes qui se sont mises aussi au surréalisme. Et elles ont une façon de faire justement avec des autoportraits ou des portraits très féministes, en fait, et une espèce de prise de pouvoir de la femme. Bon, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça t'évoque. Là, je sais que ça fait vraiment penser à du Dali. Et alors, voilà, on a des choses un petit peu plus comme ça. Ou aussi, donc, on voit qu'apparaissent les sciences, les mesures, les équations, les chiffres, les lettres, et ce n'est pas un jeu. La spatialisation de l'homme dans l'univers, et celle-là, elle est très triste. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un reste de cadavre de la guerre de 14. On voit aussi, comment dire, encore les brumes. Tiens, là, on a notre Frida Kahlo, qui donc a traité André Breton de con.
Mais j'aime là, vraiment son travail.
On a Charles Rhin, et on dirait presque, tu vois, que c'est une reprise ou un détail de ces visages-là de déesse. De déesse primitive, Gaïa, déesse de la Terre.
Il y en a des magnifiques.
Là, c'est encore une femme, Valentine Hugo. Donc, c'est vrai, par exemple, les surréalistes, tu vois, ils étaient... Bon, André Breton, il devait être super misogyne. Mais je veux dire, dans l'absolu, ils étaient très ouverts aux femmes. Donc, Gala, elle a traîné un bon moment avec les surréalistes. Là, je te montre ce magnifique... tableau de Max Ernst. Donc là, tu vois, c'est un petit dessin préparatoire que moi, j'avais fait. Et ici, la belle silhouette là, qu'on voit, c'est Gala, qui va d'abord être la femme de Paul Éluard, qui est là. Et puis, pour finir, qui va se barrer avec le jeune Dali, qui doit être quelque part par là. Je ne le vois pas. Et ça, c'est Jean Harpe. Du coup, tu vois, c'est le groupe. Il les a peints. Du coup, il les a honorés et représentés pour la vie. Et bizarrement, ils regardent tous dans des directions différentes. Alors André Breton s'envole avec sa cape de super-héros, pendant que Louis Aragon a une bouée de secours autour de la taille. Bon, voilà, c'est à la fois très affectif.
À découvrir.
Ouais, non, mais c'est super riche. Et puis du coup, ces mecs-là, ils ont fait vraiment... ils sont dans leur temps, avec leur temps. Et c'est bien parce que comme c'était un groupe de copains, justement, les uns ont rebondi sur les autres. Enfin, quand tu commences à t'intéresser à la peinture de l'un, hop, tu vois qu'il a fait le portrait de son copain, qui a lui-même fait le portrait de son copain. Et en ce sens-là, tu vois qu'ils étaient soudés. Parce que quand tu as envie de peindre ton groupe ou tes copains, c'est que vraiment, tu les aimes. Comme Manet, Peignet, les indépendants et les impressionnistes.
C'est pour dire que l'Artichaut, c'est vraiment une émission merveilleuse qui donne la frite.
Eh bien, merci pour ce retour sur le dadaïsme. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a remis un petit peu... j'en avais juste entendu vaguement parler, ou peut-être à l'époque où j'étais au collège-lycée, mais c'est des choses que j'ai oubliées. Donc, j'étais bien contente de replonger un petit peu dans pourquoi c'est né, comment c'est né, avec qui. Donc, encore merci pour
oui,
ce moment.
Oui, et puis, c'est surtout qu'au niveau des dates, c'est des gens qui sont connectés avec tes grands-parents, par exemple. C'est-à-dire que ça y est, on rentre dans le siècle où on a des connexions directes dans nos familles, parce que les âges, là, on est beaucoup moins loin de Max Ernst ou de Kandinsky qu'on a pu l'être
de Manet
ou de même de Van Gogh. Voilà, et ben Malo, c'était un plaisir. Vive les dadas, à tout vite. Bonne soirée, mes chéris, et bonne écoute.
Oui, et puis la semaine prochaine, on se retrouve avec l'artiste...
Max Ernst.
Parfait. Et ben vous savez à quoi vous en tenir pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et évidemment, cet épisode est à retrouver sur www.rdwa.fr. Rubrique émission thématique, l'artichaut.
Personnellement, j'adore l'artichaut, cette émission qui parle d'art.